Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les gens remuants, car leur calamité surgira tout à coup. Qui sait la ruine des uns et des autres ? Ça fait penser aux manifestations, un peu aux grèves, hein, les gens remuants, hein, ce qui très vite agite des banderoles. Alors vous voyez, on n'est pas trop encouragé à se mêler à ça. Bon, il ne faut pas non plus tout jeter par la fenêtre. Bien sûr, c'est normal dans une démocratie qu'il y ait un dialogue social, que les intérêts de chaque catégorie soient défendus. Mais le chrétien ne va peut-être pas dépasser certaines limites. Les gens remuant, il y a un petit côté là subversif. Hein, on est prêt à aller un peu loin, quoi. Voilà. En tout cas, ce qui me frappe dans les épîtres, Éphésiens, Colossiens, dans les rapports entre les serviteurs et les maîtres. Hein. Bon, à l'époque, c'était plutôt les maîtres et les esclaves, on va dire. Les esclaves ne sont pas encouragés à la révolte, à l'émancipation. Enfin, si tu le peux, oui, si on pouvait. Mais il ne s'agissait pas de... Si on pouvait acheter sa liberté, oui, mais il ne s'agissait pas de se révolter pour devenir libre. Et donc, le christianisme n'est pas pour la révolution. Le christianisme est pour sublimer la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut que le maître soit dorénavant bienveillant envers ses esclaves, qu'il leur donne ce dont ils ont besoin. Bon, finalement, c'est plus tellement des esclaves, en réalité. Et puis que les esclaves ou les serviteurs, alors les employés, soient respectueux vis-à-vis de leur maître, en se disant qu'au travers de lui, eh bien, c'est Dieu qu'ils servent. Voilà. Donc on sublime la situation et on y met de l'amour. Et c'est comme ça que la Bible nous encourage à vivre le quotidien, pas en changeant le système, mais plutôt en y introduisant de l'amour. Voilà. On ne va pas changer l'engrenage, mais on va y mettre de l'huile dedans. Qu'un gouverneur prête attention à la parole de mensonge, tous ses serviteurs seront méchants. Alors vous voyez, ça c'est l'idée de l'exemple, hein, le précédent. Si on fait un jour une injustice, on accorde quelque chose d'injuste, c'est un mauvais exemple qui va être donné, et alors d'autres vont essayer d'en profiter. Donc, d'où l'importance de l'exemplarité et de donner toujours des repères clairs à des personnes qui sont sous notre responsabilité. Donc pas de faiblesse, sinon il risque d'y avoir une émulation négative. Il y a un verset qui encourage plutôt au contraire. Quand on punit le moqueur, le simple devient sage. Voilà, là c'est l'émulation positive, on peut dire. La punition qui donne le bon exemple. Voilà, alors on peut passer maintenant au dernier point, c'est la vie communautaire. Bon, évidemment, il n'est pas question de la vie d'église dans le livre des Proverbes, mais bon, des relations entre les personnes, d'un peuple aussi. Alors, j'ai essayé d'y voir un peu une des applications possibles dans la vie de l'église, ou plus précisément de l'assemblée locale. La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple, mais dans le manque de peuple est la ruine d'un prince. Donc, vous voyez, ce qui quand même honore un roi, c'est d'avoir un grand peuple. Et ça m'a fait penser à la taille des assemblées locales. Parce qu'on voit des très petites assemblées quand même. Hein. Bon, après, vous avez les méga-churches, hein, comme on dit aux États-Unis. Bon, là, je pense que ça ferait un peu surdimensionné. Mais il me semble que des assemblées trop petites, c'est quand même, au départ, ça va quand même grignoter un peu par rapport au témoignage que ça va donner, du fait qu'elles soient vraiment très petites. Bon, évidemment, si le Seigneur est présent et... S'il y a une ferveur qui est là et des personnes qui sont sincères, engagées, ça peut être un bon témoignage, bien sûr. Mais voilà, prenons ce verset dans sa simplicité. La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Comment voulez-vous que les gens croient à un truc où il n'y a personne, quoi ? Alors, peut-être qu'il faut réfléchir sur la taille des assemblées. Je ne suis pas pour qu'on ferme des assemblées, bien au contraire. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'absurde. Je donne comme ça une petite ligne de conduite que vous avez peut-être déjà entendue. On remarque que quand le Seigneur a fait la multiplication des pains, Marc chapitre 6, il a fait asseoir les gens par rang de 50 et 200. Il a fait des unités de 50 et 200, peut-être entre 50 et 100. Est-ce que ça ne serait pas un repère intéressant pour la taille idéale ou souhaitable d'une assemblée locale ? Pas moins de 50, pas plus de 100. Voilà. Alors, je ne veux pas disqualifier tous ceux qui sont hors normes. La meilleure raison de ne pas le faire, c'est que mon assemblée locale, à Boyer-Bezin, on est 40. Donc, vous voyez, on est sous la barre. Mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'en dessous de 50, c'est peut-être plus difficile quand même, hein, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de dons. Ça va être difficile qu'il y ait une école du dimanche, peut-être. Les jeunes vont se sentir peut-être un peu isolés. Bon. Au-delà de ça, également, c'est difficile d'avoir un égal soin les uns les autres, comme nous dit 1 Corinthiens 12, de se connaître tous. Au niveau administratif, pour prendre des décisions, ça sera aussi certainement beaucoup plus difficile. Surtout quand on pratique une administration collégiale, comme nous le faisons. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. Et trouver, quelquefois peut-être que des fusions seraient nécessaires, et d'autres fois des essaimages. Ensuite, toujours applicable peut-être à la vie d'assemblée, les projets échouent là où il n'y a point de conseil, mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. Je pense que ce verset nous montre que c'est toujours important quand on fait des projets, de partager ces projets avec les autres, de ne pas partir comme ça, bille en tête, très loin et très fort, sans oublier de consulter des personnes qui pourront nous conseiller. Et sur le plan de la vie de l'Assemblée, il me semble que quand on a un appel, un service quand même qui va engager notre vie d'une manière notoire, il est bon de le partager avec son Assemblée locale. Et d'avoir le soutien, bien sûr, dans la prière, peut-être financier, je ne sais pas, mais en tout cas dans la prière, que ce soit partagé, qu'il y ait une vraie communion avec l'Assemblée locale, qu'il y ait les prières qui accompagnent. On voit ça dans le livre des Actes, quand Paul est parti avec Barnabas, eh bien, c'est même les anciens qui priaient, et là, Dieu a montré qui on a envoyé, ils sont partis avec les prières. Donc c'est important d'être porté quand on est comme ça en première ligne du combat, de savoir qu'il y a une arrière-garde. Peut-être que ce qui dissuade, c'est qu'on se dit qu'ensuite, il va falloir toujours rendre des comptes, et puis il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des très bons projets qui ont été envoyés dingués, et peut-être que ça n'encourage pas à consulter toujours son assemblée, mais je pense que dans l'idéal des choses, il faudrait toujours qu'un service soit accompli avec toujours la communion et le soutien de son assemblée locale. Ce qui concerne les relations fraternelles, mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Vous voyez, c'est concret, c'est simple, pas d'incruste. C'est important aussi que l'amitié soit à double sens. Vous savez, il y a des amitiés à double sens et puis il y a des amitiés à sens unique. L'amitié à sens unique, c'est que quelqu'un s'accroche à quelqu'un d'autre, souvent parce qu'il a besoin de lui. Alors, il faut reconnaître que souvent, c'est une nécessité. Il y a des personnes qui ont besoin d'être portées pendant un temps, mais ça peut devenir pesant pour la personne qui porte. Et puis, la personne qui est portée, il ne faut peut-être pas qu'elle sous-estime aussi sa capacité à porter d'autres et à apporter aussi. Voilà, donc c'est important de jamais s'installer dans une relation d'amitié qui est trop à sens unique. Sinon, finalement, on est dans une sorte d'assistana qui n'aide pas chacun dans sa relation avec Dieu. Il faut aussi que celui qui ressent le besoin de l'amitié des autres apprenne à marcher un peu tout seul, quoi. Bon, je sais bien quelquefois il y a des épreuves, il y a des situations qui font qu'on a vraiment besoin d'être porté, hein. Je ne nie pas. Mais dans les situations ordinaires, c'est important de s'interroger. La relation d'amitié que j'ai avec une personne, est-ce qu'elle est à sens unique ou est-ce qu'elle est à double sens? Est-ce que chacun apporte quelque chose, qui sera peut-être différent d'ailleurs, à l'autre. Et puis, un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Alors, vous voyez, l'image est compréhensible. Donc, quand quelqu'un est fâché, il est blessé surtout, peut-être par des paroles blessantes, ça va être très difficile de pouvoir dialoguer avec lui. Et ça, c'est aussi un principe très très important. Nathanaël y a fait allusion tout à l'heure. Il faut faire attention à ne pas heurter au point de blesser et puis plus rien n'est possible, quoi. On sort du raisonnable. Et il me semble que c'est important que les relations soient apaisées pour que quelqu'un soit convaincu. Si on veut faire changer quelqu'un d'avis et que de toute façon il est braqué parce qu'il y a une forme d'agression, c'est perdu d'avance. Il y a un verset qui dit dans Éphésiens 3, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est assez surprenant d'ailleurs comme verset. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà. Par le lien de la paix. S'il n'y a pas un terrain paisible, ça ne sera pas possible de partager la pensée de l'esprit, c'est-à-dire d'être d'accord sur la vérité, finalement, sur ce qui est la volonté de l'esprit, donc d'être dans une communion de pensée, ça demande un terrain de paix. Vous voyez, l'importance de ne pas blesser, puis s'il y a eu blessure, de demander pardon, et puis que vraiment il y ait un processus de pardon complet. Alors là, on est dans une atmosphère paisible et on peut échanger, et on peut aussi plus facilement changer d'avis, être convaincu par quelqu'un qui nous explique quelque chose qu'on a mal compris. Alors j'arrive à la conclusion. Personnellement, je ne me sens pas capable de faire une conclusion sur le livre des Proverbes, parce qu'il y a tellement de thèmes qu'il faudrait un esprit de synthèse, à mon avis, qui n'appartient que peut-être à Salomon, et en tout cas peut-être qu'à Dieu. Mais je vais simplement focaliser sur un point qui m'est cher. Je vous propose une lecture des quatre petites choses qui sont sur la terre appliquées à la vie de l'assemblée locale. On va prendre ces quatre animaux qui sont mentionnés pour essayer de voir si ça nous apprend quelque chose sur des bases solides d'une vie d'église locale réussie. Il y a quatre choses petites sur la terre qui sont sages entre les sages. Les fourmis, peuple sans force, et qui préparent en été leur vivre. Les damans, peuple sans puissance, qui ont placé leur maison dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par bandes. Tu saisis le lézard avec les mains, il est dans les palais des rois. Alors à partir de ces quatre animaux, vous voyez, j'ai souligné des mots-clés. Donc les fourmis, eh bien, elles préparent en été les vivres. Contrairement à la cigale, qui elle chante pendant l'été. Donc l'importance, amasser des vivres, se nourrir de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va faire qu'une église locale est solide? C'est qu'il y a un enseignement sérieux, approfondi et régulier de la parole de Dieu. Donc j'ai noté des membres fondés dans la parole de Dieu, et non sur un élan d'enthousiasme passager. Peut-être, on voit des églises comme ça, qui un peu champignons, qui sont dans un élan d'enthousiasme, et on n'assure peut-être pas tellement le fondement biblique des membres, et ces églises sont extrêmement fragiles. Donc il est important d'être basé sur la parole de Dieu. J'y pense beaucoup depuis que je suis allé au Congo, on voit des églises comme ça, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas trop la Bible, et c'est fragile finalement. Il est important de vraiment découper la parole de Dieu et que les gens soient nourris. Deuxième chose, les damans, ils ont placé leur maison dans le rocher. Alors je voudrais voir dans ces maisons les familles ou les individus. Les individus et les familles doivent être eux-mêmes basés sur le rocher. C'est-à-dire que la qualité de la vie de l'Église va dépendre de la piété personnelle et familiale. Si les membres sont engagés, si les familles sont engagées, si les familles lisent la parole de Dieu, si les familles prient, alors l'Église est beaucoup plus solide. Quand ces personnes se rencontrent, il y a là une richesse, il y a une solidité. Au lieu que ce soit vraiment le groupe qui porte les individus. Voyez, et ensuite, pendant la semaine, c'est un petit peu maigre. Alors, l'Église a une très très lourde responsabilité. C'est aussi sa vocation, d'accord, de porter ceux qui sont un petit peu fragiles. Mais si on veut que l'Église soit forte, il faut aussi que les maisons soient fortes. Donc, les damans ont des maisons dans le rocher, des membres ayant une piété personnelle ou familiale qui ne repose pas que sur l'Église. Troisième chose, les sauterelles. Alors, elles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par bande. Une sorte d'assemblée de frères, quoi. L'idée de sortir par bande, vous voyez, c'est que c'est tout le groupe qui est impliqué. Une sauterelle toute seule, c'est zéro, ça fait rien, ça peut manger une feuille. Un nuage de sauterelles, ça rase tout sur son passage. Vous voyez, elles sortent par bande, c'est ça qui fait leur force. Alors, c'est quoi ça? Bien, c'est un sacerdoce universel, véritable, où chaque membre de l'Église se sent impliqué dans la vie de l'Église. Il a envie d'apporter quelque chose. Un engagement de tous. Voilà ce que nous enseignent les sauterelles. Et puis le lézard, lui, il n'est pas grand-chose, on le saisit avec les mêmes, mais il est dans le palais des rois. Et j'aimerais voir dans ce palais des rois, là, la maison de Dieu. Donc là, c'est l'idée qu'on aime entrer dans la maison de Dieu, un goût pour la présence de Dieu. Et donc ça veut dire quoi en pratique? Eh bien, ça veut dire aussi une assiduité aux réunions. C'est qu'on ne va pas aux réunions quand ça nous chante ou qu'on est bien disposé, mais on en fait vraiment une priorité de notre vie. Alors voilà. Quatre bases qu'on pourrait voir dans ces animaux, donc fondées sur la parole de Dieu, une piété personnelle et familiale, un engagement de tous et une assiduité aux réunions.